religieuses aujourd'hui et demain. En compagnie de Mathieu Lavigne et de ses invités.
Bonjour à vous, ici Mathieu Lavigne au micro de Vie religieuse aujourd'hui et demain, un rendez-vous hebdomadaire proposé par la Conférence religieuse canadienne. Alors que normalement, cette émission, nous portons notre regard sur le présent et l'avenir, ce matin, nous regarderons un peu dans le rétroviseur. En effet, c'est du Père Benoît Lacroix dont il sera question, ce grand dominicain décédé le 2 mars 2016 à l'âge vénérable de 100 ans. Professeur émérite de l'Université de Montréal, docteur en sciences médiévales, historien, théologien, officier de l'Ordre du Canada et grand officier de l'Ordre national du Québec. Le Père Lacroix, c'était tout ça et davantage. Homme de médias, homme de parole, le Père Lacroix savait aussi apprécier le silence, nourrissant une vie intérieure intense. Afin de réfléchir sur la vie centenaire du Père Lacroix, d'y saisir ce qui est porteur pour l'avenir, j'ai le bonheur d'accueillir en studio Guy Laperrière, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke de 1971 à 2011, spécialiste de l'histoire religieuse du Québec et auteur de l'ouvrage Benoît Lacroix, un dominicain dans le siècle, une biographie publiée en 2017 chez Médiapol. Guy Laperrière, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Mais c'est un plaisir.
Monsieur Laperrière, commençons avec une question piège. Tiens. Benoît Lacroix était le fils de son père ou le fils de sa mère?
Bien évidemment, vous savez la réponse, il était le fils des deux, ça va de soi. Mais la question est intéressante parce que sa relation avec les deux parents était très différente l'un de l'autre. Mm-hmm. Je pense qu'il tient beaucoup de son père, qui est un homme batailleur, engagé, un homme public en quelque sorte, oui. Qui aimait faire des cris à la porte de l'Église, qui aimait se présenter dans les joutes politiques. Alors que c'est un cultivateur, son père. Tandis que sa mère est une femme beaucoup plus traditionnelle, renfermée. Il l'a décrit comme étant pieuse, s'occupant beaucoup de la famille. Et il se beaucoup occupé à prier, très dévotionneuse, oui. etc. Mais il tient un peu des deux, mm-hmm. parce qu'en même temps qu'il est un homme public, il est aussi un homme de prière, d'intériorité. Alors, il tient vraiment de ses deux parents.
Oui, et le sens de l'humour tellement original du Père Lacroix, ça vient du père ou de la mère?
Ah, oh ben sûrement du père, là, tous les traits d'esprit, les mots, le vocabulaire de son père est oui. extraordinaire. Il l'a oui. beaucoup exploité, d'ailleurs. Mm-hmm. Oui. Et ça reflète assez la société de ce moment-là.
Oui, cette espèce de dualité, en quelque sorte, entre le père et la mère.
Voilà.
Oui. Et le Père Lacroix, vous diriez qu'il est devenu un dominicain par hasard, par vanité? Qu'est-ce qui est au cœur de sa vocation?
On peut être porté à croire que dans ce temps-là, dans les années 30, hein, il est né en 1915, il entre chez les Dominicains en 1936. Alors, on peut être porté à croire que c'est une vocation religieuse faite de piété à la suite d'un cours classique au Collège Sainte-Anne de la Pocatière, mais c'est pas tout à fait comme ça. En fait, c'était pas du tout un étudiant modèle. Mm-hmm. En ce sens qu'il s'occupait oui. beaucoup plus de sport que d'études. Et quand est venu le temps de choisir une vocation, il a été attiré surtout par l'aspect missionnaire, par le fait d'aller ailleurs. Même pas le fait d'être prêtre, le fait d'aller ailleurs. Alors, entre autres, il a été bien marqué par le passage, quand il avait 8 ans dans sa paroisse, qui est Saint-Michel de Bellechasse, d'un franciscain qui s'appelle le père Égide Roy, qui venait du même village et qui faisait un départ missionnaire. C'était un moment très émouvant. On disait qu'on baisait les pieds des missionnaires qui partaient sans jamais revoir leur pays pour convertir les pauvres païens, etc. Lui s'en allait au Japon, c'était pas tout à fait des pauvres païens, mais enfin. Mm-hmm. Et donc, il a été très marqué par ça et ce goût d'aller ailleurs l'a beaucoup frappé aussi.
Oui. Et l'habit dominicain lui a fait de l'œil assez rapidement.
L'habit dominicain, ça c'est amusant parce qu'il aurait pu aller comme la plupart, il aimait beaucoup les prêtres du Collège Sainte-Anne de la Pocatière, il aurait pu être prêtre séculier, mais ça, oui. c'était des soutanes noires. Tandis que l'habit blanc des pères dominicains, ça l'attirait, c'était beaucoup plus beau. Et lui-même était assez bel homme. Oui. Alors, il a toujours soigné cet aspect-là de sa personnalité et ça a certainement joué. De telle sorte qu'on peut dire, en vérité, que c'est typiquement une vocation sociologique. Lui-même le reconnaît parfaitement. Il dit « Je me suis laissé porter par le vent ».
Donc, une vocation sociologique, c'est qu'elle a, elle a été beaucoup influencée par le milieu, si je comprends.
Par le milieu, par le fait, par exemple, qu'à Saint-Anne-de-l'Apocalypse, 70 % des finissants devenaient prêtres.
Oui.
Une grande majorité des finissants devenaient prêtres à ce moment-là.
Et au sein même de la fratrie, je pense qu'il y a plusieurs, il y a d'autres religieux,
dans
religieuses.
Sa famille, ils sont cinq. L'aîné était cultivateur. Le deuxième, Alexandre, était prêtre, séculier. Lui-même, c'est-à-dire l'aîné, c'est une fille, hein, Jeanne, qui a été maîtresse d'école. Lui était le troisième, et le troisième ou le quatrième, je peux me tromper. Et toujours est-il que la dernière, Cécile, est devenue une sœur missionnaire de l'Immaculée Conception.
Quand même, oui.
Et donc, trois dans la famille sont religieux, sont cinq.
Et le père Lacroix, on peut dire aussi que le fait qu'il n'appréciait pas particulièrement le travail sur la terre a pu aider, je pense, à sa vocation.
Oui, les gens dans son milieu se sont beaucoup moqués de lui en disant, il est trop paresseux pour faire un cultivateur. C'est pour ça qu'il va au collège, qu'il étudie pour devenir prêtre.
Oui. Et Guy Laperrière, bon, on oublie parfois que Benoît Lacroix a œuvré au fil de sa carrière dans une foule de domaines, qui a eu quand même une longue carrière universitaire. Un aspect sur lequel j'aimerais insister avec vous, c'est son attrait et l'importance qu'il a accordé à la religion populaire, à l'étude de la religion populaire, du folklore. Pourquoi c'était si important pour lui?
Alors ça, c'est intéressant de situer ce dont vous parlez dans l'histoire.
Oui.
On est au moment de la Révolution tranquille dans les années 1960. Et là, il se produit quelque chose, c'est que il est directeur de l'Institut d'études médiévales, qui est une tâche très accaparante. Il s'occupe beaucoup de littérature. Il dirige une collection qui s'appelle Vie des lettres canadiennes. Et il a toujours été intéressé aussi par le folklore. Par le folklore avec son ami Luc Lacourcière, qui a fondé les archives de folklore à l'Université Laval. Et alors, à ce moment-là, il voudrait lancer ce mouvement du folklore à l'Université de Montréal. Et ne trouvant pas de manière d'y accéder, il décide de faire à l'intérieur de son Institut d'études médiévales un centre d'études des religions populaires qu'il va mettre lui-même sur pied. Et pourquoi cet attrait vers les religions populaires? C'est que durant la Révolution tranquille, comme vous le savez, la religion catholique a été assez malmenée, mm-hmm. surtout dans ses aspects officiels. Et lui a l'intuition qui lui vient de ses études médiévales que le lien entre la société canadienne-française et la France est un lien fondamental, et la France médiévale en particulier. Oui. Donc, par ce biais-là, il veut retrouver les chansons, les coutumes, le folklore, les idées religieuses d'autrefois. Il veut retrouver la religion de l'enfance, et c'est ça qu'il va beaucoup cultiver, en multipliant les entrevues, en faisant toutes sortes de contacts et en développant des colloques et en essayant de mettre sur la carte, si je peux dire, cet aspect populaire de la religion par contraste avec la religion savante.
Mm-hmm. Parce que pour lui, il y avait un lien indissociable entre religion et culture, religion et art notamment.
C'est une chose qui l'a beaucoup intéressé également, en particulier quand le pape Jean-Paul II est venu au Canada. C'est lui, dit-on, qui a préparé les homélies sur ce thème de religion et culture. Et ce voyage du pape Jean-Paul II au Canada était très marquant pour lui. Ça l'a rapproché beaucoup de l'Église institution, dont les années 60 l'avaient éloigné considérablement, oui. notamment avec l'encyclique Humanae Vitae qu'il n'avait pas aimé du tout.
C'est ça, il l'a pris de façon assez dure. Bon, il a assez peu suivi Vatican II. En tout cas, ça n'a pas eu un impact majeur sur
on
lui.
On l'entend pas beaucoup parler du Concile Vatican II, mais on l'entend parler d'un point qui le préoccupe beaucoup, c'est la primauté de la oui. conscience. Et ça a été beaucoup développé à Vatican II.
Et peut-être une des raisons pourquoi Humanae Vitae l'a peut-être
beaucoup bousculé.
C'est ça.
D'autant qu'il était très proche des jeunes, et notamment de jeunes couples et de jeunes familles.
Mm-hmm.
Alors, il leur indiquait, suivez votre conscience pour les questions d'avortement, pour les questions de conception, de contraception. Mm-hmm. Alors, quand Humanae Vitae est arrivé, ça a été un drame pour lui, comme pour beaucoup de chrétiens et de chrétiennes au Québec. Et ça a amené toute une évolution d'éloignement du catholicisme d'une grande partie des gens.
Oui.
Et lui aussi, c'est peut-être la religion populaire une manière de rattraper ça, parce qu'on peut se poser la question, est-ce que lui-même a été tenté de quitter les ordres religieux oui. à la fin des années 60, quand tant de ses confrères le faisaient? Et en fait, c'est pas une question qui s'est posée pour lui. Je l'ai vu dire dans ses livres, j'étais tellement occupé à m'occuper des autres qui sortaient que j'avais pas le temps de regarder moi-même oui. ce qui m'arrivait. Et sa vocation est une espèce de fleuve tranquille, en quelque sorte.
Oui, c'est comme s'il est entré dans la vie religieuse. il s'est trouvé plutôt bien et suivi le courant.
C'est-à-dire que c'est pas seulement ça, ça s'est beaucoup approfondi. C'est comme s'il avait creusé son chenal. Mm-hmm. C'est pas un fleuve tranquille où il se passe rien, il se passe beaucoup de choses dans sa vie.
Oui.
Et il approfondit. Un bel exemple, c'est sa relation avec Thérèse de Lisieux.
Oui.
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'il découvre dans les années, quand il est au Studendard à Ottawa dans les années 30. Il va écrire une petite biographie à son sujet au moment du centenaire de sa mort, cinquantenaire de sa mort en 1947. Elle était décédée en 1887, donc il publie un petit livre à ce moment-là.
La première publication, je crois.
Oh, c'est une de ses premières publications, très peu importante, remarquable. C'est un livre de piété sans grande importance. Mais enfin, c'est un attachement à une forme de spiritualité très différente de ce qu'on trouvait à ce moment-là, notamment chez les Dominicains.
Ah oui. Et parle-nous justement de sa spiritualité, de sa vie intérieure au Père Benoît Lacroix. Donc, intérêt marqué pour Sainte Thérèse de Lisieux. Qu'est-ce qui définit, en quelque sorte, ou caractérise sa vie intérieure?
Sa vie intérieure est marquée beaucoup par deux phénomènes qui sont très proches de la vie d'une communauté religieuse, la prière et le silence. Je pense que ce sont deux éléments très importants de sa spiritualité. D'une manière, les moyens qu'il utilise. Maintenant, si on regarde le fond de la question, le fond, c'est beaucoup ce que j'appellerais sa spiritualité cosmique. Il est très proche de la nature. Il adore son village de Saint-Michel de Bellechasse. Oui. Il a été très influencé par le fleuve, par les montagnes. Il parle à tout moment du soleil, des étoiles. Il relève dans la Bible tous les passages, tous les psaumes qui vont traiter de la nature. Donc, cet aspect cosmique l'habite énormément.
On est proche de Théard de Chardin. Là.
Énormément. Il a été influencé par Théard de Chardin. Il a beaucoup lu. On se souvient de son émission radiophonique « Messe sur le monde » qui est inspiré directement de Théard de Chardin et qui reprend cette spiritualité cosmique dans la liturgie.
Mm-hmm. Et ça me fait penser, est-ce qu'il y a eu un intérêt pour la spiritualité autochtone? Parce qu'il y avait un groupe autochtone qui n'était pas très loin de son village natal. Est-ce que le père Benoît Lacroix a été intéressé par cette spiritualité?
Ça, c'est amusant la question que vous posez là, parce qu'au début de sa vie, la forêt de Masca où se trouvaient ces Amérindiens-là était un endroit épeurant. Quand ses parents parlaient ça, c'était un endroit qu'il fallait craindre. On pouvait y aller, mais enfin, c'était très délicat. Tandis qu'à la fin de sa vie, dans les années 2000, quand on voit tout le mouvement en faveur des Amérindiens, là, on le voit s'engager très nettement. Il va écrire des contes à ce sujet-là qui sont très, très beaux sur les Amérindiens, dans ses derniers écrits en particulier.
Oui. Est-ce que vous diriez que Benoît Lacroix, ses contes ont une, je dirais, une plus grande portée, ou il y avait peut-être un plus grand talent pour le conte que, disons, pour les publications scientifiques?
Ben, pour dire la vérité, c'est Henri et René Maroux, un de ses grands maîtres et un de ses grands amis, qui lui a dit un jour, vous savez, vos contes sont bien plus intéressants que vos thèses scientifiques. Et comme de fait, il a été un excellent conteur. Le premier conte qu'il a écrit, c'est Le Petit Train, en 1964, qu'il a beaucoup travaillé. Il aimait beaucoup écrire, il aimait beaucoup soigner l'écriture, et ce conte-là est un peu une autobiographie. En même temps, qui est très vivante et très, très bien écrite.
Oui, oui. Et au niveau académique, quel serait peut-être son maître ouvrage, en quelque sorte, ou l'ouvrage qui le représente le mieux, peut-être?
Bien, vous avez mentionné tout à l'heure les religions populaires. Oui. Je pense que c'est là qu'il a excellé. Et l'ouvrage qui le caractérise le mieux, que moi je retiens, en tout cas comme le principal ouvrage qu'il a écrit, qui a le plus de portée, c'est celui qui s'appelle « La foi de ma mère ». Mm-hmm. Et c'est dans cet ouvrage-là qu'il décrit, curieusement peut-on dire, la religion de son père. Parce qu'à tout moment, il met en contraste ce que vivait son père, ce que vivait sa mère. Et c'est toujours, quand il décrit la religion de sa mère, c'est toujours par rapport à ce que faisait son père. Et il décrit toutes les traditions de son village, Saint-Michel de Bellechasse. Les prêtres, quelle était la vie religieuse, la vie de tous les jours, la vie quotidienne, les lieux sacrés, les dévotions, les loups-garous, les légendes, les contes, les chansons, les cantiques. Voyez un peu tout le cycle liturgique est décrit là-dedans.
Oui.
C'est une somme pour qui veut connaître la réalité vécue religieuse au Québec entre les années 1920-1940. C'est vraiment une somme.
Oui. Et vous parlez de son père. Vous avez évoqué plutôt qu'il était très impliqué en politique. Étrangement, le père Benoît Lacroix était, je vais dire, peu politisé, c'est pas ça, mais disons qu'il parlait peu de politique, ou était même, à la limite, peu intéressé par la politique. Est-ce qu'on peut dire ça?
Il a voulu se tenir loin de la politique. Par contre, loin de la politique, je pense, c'est à cause de son père, surtout. Son père était un rouge teinté rouge, on peut dire. Et ça tombait bien, c'était au temps de Taschereau. Oui. Alors, ça a été une époque glorieuse pour son père d'être libéral dans le comté de Bellechasse. Mais par contre, lui a été assez proche de certains hommes politiques. Je pense en particulier à la famille de Daniel Johnson, père et fils. Il a participé au mariage, les décès. Pierre-Éliott Trudeau également, c'est lui qui a accompagné Pierre-Éliott Trudeau dans ses derniers jours, des moments très touchants. Donc, il était proche des hommes politiques, il les respectait beaucoup et il voyait le bien. Il était très patriote aussi, très proche de Lionel Groulx, par exemple.
Oui, oui, ça, très, ça m'a surpris, ça, oui. Cette proximité entre Groulx et Lacroix. Au niveau idéologique, je ne pense pas qu'ils soient si proches.
Pas au niveau
mais
idéologique.
Les deux hommes, par contre, se respectaient grandement.
Oui, et au niveau nationalisme aussi. Oui. Lacroix est quand même nationaliste. Oui. Au niveau du Canada français, oui. De la même façon que Groulx, je dirais d'une certaine manière que Lacroix est plus attaché au Canada français qu'au Québec comme tel. Mm-hmm. Quoique, quand on lui pose la question, il est toujours humoriste et diplomate, il lui répond « Mon pays, moi, c'est Bellechasse. »
Oui, oui.
Mais quand vous regardez, par exemple, les colloques qu'il a organisés pour les régions populaires, il est allé en Ontario français, en Acadie. Il tenait beaucoup à cette présence du Canada français. Mm-hmm. Et ça, il partage ça avec Lionel Groulx.
Oui, oui. Et le père Lacroix a été proche de la jeunesse tout au long de sa vie, jusque dans les dernières années. Il s'intéressait beaucoup aux jeunes qui passaient par le couvent des Dominicains. D'ailleurs, le service d'aumônerie affilié à l'Université de Montréal porte le nom d'Espace Benoît Lacroix, c'est tout dire. Comment expliquer cet intérêt constant du père Lacroix pour la jeunesse montante?
Vous avez raison, il a été très proche des jeunes, il en était d'ailleurs très content, et je pense que ça s'explique tout simplement par le travail qu'il a eu à faire. Il a été un jeune professeur d'université dans les années 50, et tout de suite, il a été proche des étudiants. Mmh. Quand il est allé en France en 1953 pour faire des recherches savantes pour ses recherches médiévales, il s'est en fait surtout occupé du parascolaire, et en particulier les pèlerinages à Chartres. Et ces pèlerinages à Chartres, c'était des jeunes étudiants qui partaient en groupe à pied de Paris ou de Rambouillet jusqu'à Chartres. Et lui accompagnait un groupe de jeunes filles, parce qu'évidemment, on allait par sexe, hein, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Et lui a toujours été particulièrement attiré par les femmes. Il a fait un apostolat important. Par exemple, quand il était directeur de l'Institut d'études médiévales, il allait recruter des jeunes pour avoir des étudiants dans ses cours. Oui. Il allait dans les collèges féminins, Marguerite Bourgeois, Basile Moreau. Et là, il recrutait des jeunes filles. Il était très, très content. Et il essayait de promouvoir l'instruction des filles, l'éducation des filles, en essayant de convaincre ces jeunes filles et leurs parents que c'était important pour elles qu'elles poussent vers les études supérieures. Ce qui n'était pas si répandu que ça dans les années 1950.
Mm-hmm. Oui, oui. Et Guy Lapeyrière, je rappelle que vous avez écrit une biographie sur le père Benoît Lacroix, publiée chez Mediapol l'an dernier, en 2017. Guy Lapeyrière, est-ce qu'on pourrait dire que quelle est l'importance du don de soi chez Benoît Lacroix?
Alors là, vous touchez aux valeurs fondamentales. Je pense que dans les valeurs fondamentales de Benoît Lacroix, le don de soi est une des principales valeurs. Si on recherche les valeurs qui l'ont guidé, et ça lui vient beaucoup de Thérèse de Lisieux, effectivement, et de manière plus générale, de l'Évangile. Oui. Il a été... pour lui, le modèle, c'est le Christ. Et d'une certaine manière, quand on essaie de cerner sa personnalité, on voit qu'il a essayé tout au long de sa vie d'être un prêtre en imitation du Christ. Mm-hmm. Et pour lui, qu'est-ce que le Christ a fait de plus important? C'est de donner sa vie pour les autres. Alors, il essaye de faire la même chose, mettre sa vie au service des autres, donner sa vie pour les autres. Et il l'a fait de manière extraordinaire. Par exemple, il découpait ses journées très systématiquement. C'était un homme qui faisait énormément de choses dans une journée. Le matin, c'était l'étude. L'après-midi, il recevait des gens. Il a reçu des gens de tous les horizons. Dans son bureau qui était situé, c'est amusant, quand il était à la retraite pendant les 30 dernières années de sa vie, dans la bibliothèque de l'Institut d'études médiévales. Il aimait tellement les livres, mais il aimait encore plus recevoir les gens, leur rendre service et être ouvert à tous.
Oui, oui. Et il a développé un nombre d'amitiés incroyables. C'est juste penser au nombre de personnes avec qui il a développé vraiment des relations profondes, là. Pas seulement des amitiés de surface, mais vraiment des relations profondes. On
et en particulier des couples qu'il a rencontrés en France quand il faisait ses pèlerinages étudiants. Il les a rencontrés dans les années 50. Il est resté en lien avec eux pendant 50 ans. Et ces familles-là, il allait baptiser leurs enfants. Il allait aux funérailles des parents. Enfin, comme il a vécu 100 ans, vous comprenez qu'il a connu plusieurs familles.
Oui. Et une chose qui m'a frappé, bon, vous évoquez son séjour en France notamment, quand il est allé enseigner à Caen, cette solitude qu'il a ressentie, Benoît Lacroix aimait vivre avec ben avec d'autres, finalement, était quelqu'un qui recherchait cette ambiance familiale, en quelque
sorte. La vie communautaire. Il était très attaché à la vie communautaire. Et entre 73 et 76, il a été invité à donner, dans le cadre des études québécoises, des cours de littérature et de civilisation québécoise, et en même temps que de littérature médiévale, à Caen, à l'Université de Caen. Et là, il s'est retrouvé seul dans un appartement passablement désorienté. Et dans un milieu qui lui était complètement inconnu, un milieu surtout marxiste.
Oui.
Et alors, il a développé là des liens avec les gens et une ouverture aussi à des milieux différents du sien, qui est assez remarquable.
Oui, oui. Justement, en baignant dans un univers plus marxiste à cette époque-là, est-ce qu'il a douté de sa foi, disons?
Je ne dirais pas qu'il a été porté à douter de sa foi, mais il a été porté à douter de la société dans laquelle il vivait. Et la façon qu'il a trouvé de remédier à ça, c'est que non loin de Caen, il y a Lisieux. Il prenait le train, il allait à Lisieux. Il a dit « Thérèse m'a sauvé en quelque sorte. Elle m'a recentré. » Et il s'est remis sur l'essentiel. Il a continué à développer ses amitiés avec toutes ces personnes de Caen, à tel point qu'ils l'ont même nommé directeur conjoint de l'Institut de français. Parce que vous savez que même les marxistes en France sont capables de se chicaner entre eux.
Alors, un
dominicain pour diriger cet institut, c'était assez prodigieux.
Il a joué presque un rôle de médiation, je pense, dans ce dossier-là. Et quel était, aux yeux du Père Lacroix, le rôle des communautés religieuses en Église? Quel était le rapport principal à la vie ecclésiale?
Le Père Lacroix était beaucoup préoccupé par la vie de l'Église, au Québec en particulier, mais je pense pas que je l'ai jamais vu se préoccuper du sort des communautés religieuses comme telles. Il avait vis-à-vis sa communauté un grand attachement. Mm-hmm. Il a servi de porte-parole souvent. Dès qu'on lui demandait un service, il le rendait. Mais c'est pas l'institution comme telle, c'est pas ça qui l'intéressait, ni dans l'Église, ni dans sa communauté. Il n'a jamais occupé de tâches de supérieur, par exemple, des choses comme ça. Mais de voir comment l'Église pouvait maintenir sa présence au Québec et rester fidèle à sa tradition. Il est très attaché au catholicisme comme tradition qui remonte à la Nouvelle-France, qui remonte à la France, qui remonte au Moyen-Âge, qui remonte à l'Évangile, en somme. Alors, toute cette tradition-là le porte énormément.
Oui, donc très enraciné dans sa foi, dans l'Évangile, mais en même temps très ouvert sur d'autres religions, entre autres, surtout vers la fin de sa vie, en tout cas, on pouvait remarquer un intérêt pour le bouddhisme, notamment.
Pas seulement à la fin de sa vie, parce que dès les années 60, il a fait un voyage au Japon, et c'est là qu'il s'est intéressé au bouddhisme particulièrement. Et quelques années plus tard, en 1965, il est allé au Rwanda. Il a découvert d'autres religions. Donc, il a été ouvert à toutes sortes de traditions. Et on le voit en particulier dans ses éditoriaux qu'il écrivait à chaque Noël et Pâques dans Le Devoir. Et on voyait ce souci d'écrire de telle sorte que tout le monde puisse accepter ce qu'ils disent. Donc moi, je le vois surtout comme un homme d'ouverture. Oui. Ouverture à d'autres milieux, ouverture à d'autres générations. C'est pour ça qu'il est resté toute sa vie attaché aux jeunes, alors que lui était d'une génération, souvent les gens âgés disent « Oh ben nous, on laisse ça aux jeunes, on a fait notre vie. » C'était pas du tout du genre à dire « J'ai fait ma vie. » Il était présent à 99 ans ou à 100 ans comme il était présent à 50 ans.
Oui, il allait encore dans les écoles les dernières années de sa vie.
Il acceptait les invitations qu'on lui faisait. Il allait dans une école secondaire à Saint-Henri. Il allait au Collège Brébeuf rencontrer les jeunes. C'était sa passion.
Oui. Et vous évoquiez son ouverture. Est-ce que vous diriez que c'est le principal legs du Père Benoît Lacroix à l'Église et à la société québécoise?
D'une certaine manière, oui, parce que il s'est bien rendu compte que l'Église catholique, durant la deuxième moitié du 20e siècle, a perdu beaucoup d'audience au Québec. Et lui cherchait le moyen de garder le lien entre le peuple québécois et la religion catholique. Et la façon dont il a fait ça, c'est d'être ouvert à tous et de voir d'essayer de tracer des ponts, de mettre des ponts, des liens, de souffler sur les braises qui sont encore allumées, de garder la flamme vivante, d'aller à l'essentiel, de retourner à l'Évangile, de laisser faire toutes les traditions, toutes les coutumes, de briser la loi s'il le faut pour rester fidèle au message principal. Ça a été ça, je pense, son action principale. Et de cette façon-là, il a réussi à se rendre attirant pour tout le monde. Tout le monde l'aimait, en somme. Même s'il était religieux, les gens qui n'étaient pas religieux l'aimaient.
C'est vrai.
Et c'est un témoignage assez extraordinaire. Une
figure assez unanime, le Père Benoît Lacroix.
Exactement.
Donc, un créateur, un constructeur, bâtisseur de ponts. Est-ce qu'il était impliqué dans le dialogue interreligieux, le Père Benoît Lacroix?
C'est ça. Les religieux avaient l'habitude de se spécialiser Et dans ce dialogue-là, c'est surtout le père Irénée Beaubien qui était un jésuite, qui était, et c'était un ami du père Beaubien d'ailleurs. Ils avaient le même âge à peu près, ils sont morts à plus de 100 ans chacun.
Fondateur du Centre canadien d'œcuménisme, le père Irénée Beaubien.
Par contre, on peut mentionner par exemple la grande amitié qui a lié Benoît Lacroix avec Louis Moulstock, un peintre juif dans les années 30. Ça a été une amitié très fidèle jusqu'à la mort de Louis Moulstock vers 1997, si je ne me trompe pas, à l'âge de 97 ans, quelque chose comme ça. Ils sont restés très liés et ça montre, dès les années 40-50, d'être lié avec quelqu'un comme Louis Moulstock qui est un peintre juif, c'était pas une chose courante pour un prêtre catholique.
Et ça montre son intérêt, son ouverture sur les autres religions et les autres cultures. Et les artistes aussi.
Ben, c'est ce que j'allais dire. Artistes, oui. Ouverture. Quand je pense qu'on vient de faire une entrevue de plus de 20 minutes et qu'on n'a pas parlé de ses liens avec Hector de Saint-Denis-Garneau, c'est quand même incroyable. Ça a été une de ses passions, ça aussi, Saint-Denis-Garneau. Il a fait La rencontre de la famille.
Oui.
Il a publié ses œuvres dans une édition critique avec Jacques Brault.
Oui,
c'est vraiment un personnage qui touche à tellement de choses qu'on n'a pas fini de le découvrir. Et c'est pour ça que j'ai été tellement content d'écrire ce livre-là qui montre toutes ces facettes de ce personnage. Et je suis content qu'on ait pu en parler aujourd'hui.
Bien, Guy Laperrière, merci beaucoup pour votre présence en studio aujourd'hui. Vraiment, ça a été un plaisir énorme de parler avec vous et de parler du père Benoît Lacroix. Merci beaucoup.
Tout à fait réciproque.
Alors, je rappelle que Guy Laperrière a été de 1971 à 2011 professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, spécialiste de l'histoire religieuse du Québec. Guy Laperrière est l'auteur de l'ouvrage Benoît Lacroix, un dominicain dans le siècle, une biographie publiée en 2017 chez Mediapol. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Vie religieuse aujourd'hui et demain, une émission proposée par la Conférence religieuse canadienne avec le soutien de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse. Un amical merci à Pierre de Gagné à la régie. Je m'appelle Mathieu Lavigne. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM. À bientôt.